Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission Qu'en pensez-vous? Eh bien, oui, Pierre est encore absent aujourd'hui. Je suis très heureuse de le remplacer, de remplacer cet excellent animateur. Mais dans le cadre de l'émission aujourd'hui, Qu'en pensez-vous? Où on échange sur l'actualité locale, locale, régionale, provinciale, nationale et internationale. Je suis très heureuse d'être accompagnée de M. Jules Simard. Bonjour, Jules.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien.
Ça fait un bail qu'on ne s'est pas rencontré.
Oui, je suis toujours contente. J'écoute tes émissions, puis j'avais hâte qu'on ait l'occasion, qu'on puisse partager ensemble et que je puisse avoir tes opinions en live sur la réalité, notre actualité locale.
On va essayer ça aujourd'hui.
Super. Donc, Jules, pour commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Au niveau local, il y a un aéroport qu'on connaît bien dans la région, l'aéroport d'Olbeau-Mistassini-Normandin-Saint-Félicien, qui vient de changer de nom.
Oui, en fait, on change le nom. Je sais qu'il y a eu, tu sais, là, à peu près 2 ou 3 ans, on a fait quand même des rénovations importantes dans cet aéroport-là. On a tout refait la piste parce qu'on n'était plus capable de faire atterrir des avions, entre autres, l'avion ambulance ne pouvait plus atterrir parce qu'il y avait trop de chaos dans la piste. Et ça a été quand même un investissement majeur qui a été fait. Et on voulait donner aussi à cet aéroport-là un peu la porte vers le nord. Parce qu'on parlait beaucoup de développement nordique. On en était à essayer de faire en sorte que ce développement-là se fasse et passe par chez nous. Mm-hmm. C'est-à-dire tant au niveau du transit des matières et des produits que, naturellement, les employés ou, en fait, le personnel qui devait peut-être aller travailler dans le nord. Ça l'a permis... Ça n'a pas levé. Mm-hmm. D'après ce que je peux voir, il y a eu quand même, oui, certaines activités, mais ça ne l'a pas levé beaucoup. Et on en est toujours, avec cet aéroport-là, à se dire, où est-ce qu'on s'en va avec l'aéroport? Est-ce qu'elle est de plus en plus utilisée, de moins en moins utilisée? Est-ce que c'est exclusivement un club d'aviation quasiment? Mm-hmm. On en est toujours... Je sais que ça travaille beaucoup pour essayer de lui donner... Une vocation réelle, puis qu'on puisse être capable de l'utiliser davantage. Au moins, là, on change de nom, ça veut rien dire en soi.
Bien, mais ça devient un nom moins compliqué maintenant. Ouais, ça devient l'aérodrome Lac-Saint-Jean.
Ça permet de faire en sorte que nous l'espérons que ça puisse être capable d'être plus vendeur pour une utilisation auprès des autres types d'entreprises.
C'est quand même particulier qu'entre Dolbeau et Saint-Félicien, donc quand même des municipalités qui ne sont pas très connues au niveau provincial, on ait la chance d'avoir un aéroport avec les installations nécessaires. Donc, c'est déjà super. Mais c'est aussi un point de repère intéressant pour les gens de la place, sur la friche.
Oui.
Puis, j'ai hâte de voir, moi aussi, parce que oui, les installations, on a une belle affiche, mais on regarde les hangars, c'est pas très attrayant non plus. Donc, le changer de nom, est-ce que ça va apporter une vague de changement qui va avec? C'est un très bon point à surveiller.
Ce qui est important, je pense, de voir, c'est effectivement comment est-ce que nous pouvons attirer des transporteurs aériens qui l'utilisent, donc qui viennent dans le coin. Pour pouvoir être en mesure, il y a eu quand même une foule d'activités qui ont été faites pour mm-hmm. pouvoir être en mesure d'avoir qu'on soit un transporteur, qu'on soit un endroit où il puisse y avoir, entre autres, les voyages Montréal-Dolbeau, Montréal-Lecoin, qui pourraient se faire. C'était une utilisation. Le coût qui était relié mm-hmm. à cela, ça faisait en sorte que, ouais, bon, tu l'utilisais, mais ça devenait peut-être, même si ça te prenait 4 heures ou 6 heures pour aller à Montréal, ça te coûtait peut-être moins cher y aller en auto. Là, aujourd'hui, non, mais c'est quand même le point, il y a une utilisation. Puis tout ça s'inscrit actuellement aussi dans le cadre de toute la nouvelle politique au niveau du transport aérien. Il va y avoir beaucoup de changements qui vont intervenir, entre autres depuis le post-pandémie qui va y avoir. Alors, ce phénomène-là, est-ce que ça permettrait peut-être à l'aéroport? On sait qu'il y a des entreprises de transport régional, des entreprises régionales, donc, qui veulent... De plus en plus, on sait qu'on l'a à Bagotville, entre autres. Mm-hmm. Là. Et bon, est-ce que ça pourrait faire en sorte qu'ils puissent aussi se ramasser chez nous? C'est un peu une position. Peut-être qu'en changeant de nom, on peut peut-être permettre de... Ah, ben non, c'est nouveau, cela, là. On est... Bon, peut-être que ça pourrait permettre...
Si on regarde sous un autre angle, les pilotes amateurs, donc ceux qui ne chargent pas, ou encore les entreprises touristiques, pourrait avoir des vols touristiques autour de la région à départ et atterrissage à la même place parce que c'est moins cher que d'autres aéroports dans notre région.
Il y aurait ce phénomène-là.
Puis aussi les pilotes amateurs qui, eux, qui s'en viennent vivre en région présentement parce qu'on a quand même une grande vague de migration, bien, c'est beaucoup moins cher d'avoir un espace à l'aérodrome Lac-Saint-Jean, avec le nouveau nom, qu'aller dans n'importe quel autre aéroport avec des installations. Ça peut être tout aussi intéressant.
Il y a fort probablement qu'effectivement, c'est un marché qui est visé, là, mm-hmm. Il s'agit de voir où est-ce qu'on va se ramasser là, avec ça. Fort probablement qu'on espère que ce ne sera pas juste un projet nazaire.
Changement de nom, c'est quand on veut aussi dire changement de perception. Hein?
Fort probable, fort probable.
Passons à une bonne nouvelle, un retour d'une belle solution, d'un bel engagement d'une entreprise d'ici, les Chocolats Les Pères Trappistes, qui ont décidé de faire des dons à la DPJ.
C'est bien ça?
Oui. Hein?
Ça permet de faire en sorte que ce qui se produit chez nous peut être utilisé à des fins humanitaires. Ça m'amène peut-être à discuter ou de voir un phénomène un peu plus grand. Tu sais, actuellement, on parle de la vaccination. Comment est-ce que ça coûte? Ça coûte très cher. Mm-hmm. Tu te rends-tu compte que pour pouvoir aider des gens avec la vaccination, on fait appel donc à une entreprise privée qui, elle, n'est visée que par... Je sais que mon discours est socialisant, mais si tu veux, je te dis, de plus en plus, je m'en vais vers là. Ça me permet de faire... Écoute, on en est rendu à... Ça coûte des fortunes pour avoir des vaccins, donc une œuvre humanitaire pour pouvoir être capable. Moi, je suis content de voir qu'une entreprise locale... Je veux faire un rapport avec ça, tu me diras, mais...
Oui.
Qu'une entreprise locale se dit, bon, bien, oui, on... Ça va bien, parce que j'ai eu l'occasion justement de discuter pas plus tard qu'en fin de semaine avec le propriétaire et...
le copropriétaire, M. Genet.
Exactement, et qui me disait que oui, ça allait bien. Ils sont en pleine production encore pour le chocolat de Pâques, mm-hmm. et ça produit, donc il y a... fort probablement, je me souviens que quand j'ai parlé des premiers 3 millions de petites poules qui se vendaient, ça fait déjà une couple d'années, là, tu sais, on est rendu fort probablement à beaucoup plus que ça dans les ventes et ça permet de faire en sorte que, oui, il y a des retombées, donc, qui peuvent se faire sur une base humanitaire pour aider des jeunes.
Puis, on s'aperçoit que c'est pas absolument des grands montants d'argent que la valeur qui est en arrière.
Exactement, donc, ça permet surtout...
C'est parce que, dans le fond, c'est des familles, c'est des enfants qui sont soit en maison d'accueil ou en centre de jeunesse. Donc, c'est des familles et des jeunes enfants qui n'auront pas le phénomène de la famille, en plus, en temps de COVID. Donc, c'est une belle façon de donner le sourire. Donc, c'est...
Oui, c'est vraiment une initiative intéressante qui va certainement... Je pense qu'on en est à la deuxième année de ce phénomène-là. Donc, est-ce que ça va maintenant devenir une tradition, peut-être?
Ah, ça serait le fun. On envoie le message aux intéressés. Maintenant, une nouvelle un peu plus municipale. On parle un peu plus politique. Le bar hôtel chez Camille à l'entrée de Dolbeau-Mistassini, entre Dolbeau et Sainte-Jeanne-d'Arc, a été acheté par la municipalité.
Oui, en fait, ils l'ont acquéri par le fait que le propriétaire ne payait pas ses taxes. Et donc, ça a été acquis de cette façon-là. D'après ce que j'ai pu voir, c'est que l'on veut en faire premièrement. On veut le débâtir, là, mm-hmm. c'est, on parlait d'une blessure ou d'une plaie ou d'une tache quelconque dans le paysage urbain, ça va devenir effectivement là, donc, un espace vert ou un espace là, libre pour pouvoir... quels sont les projets que la municipalité va faire après? On ne sait pas. Pour l'instant, ça me surprendrait que... parce que c'est quand même un terrain qui est assez grand.
Oui.
Okay, qui est assez vaste.
Il est bien placé aussi.
Oui, fort probablement qu'on va pouvoir en faire pas nécessairement un parc, là, parce qu'il est quand même assez proche de la route et ça deviendrait...
Et c'est pas l'endroit le plus achalandé.
Non.
Pour ceux qui ne connaissent pas, le bar chez Camille, c'est sur la route entre Sainte-Jeanne-d'Arc et Dolbeau-Mistassini. C'est un hôtel qui est en laissé en décrépitude depuis plusieurs années.
Oui.
Donc, on le remarque et ça donne une mauvaise image de la municipalité pour les personnes que c'est la première fois qu'ils rentrent dans la municipalité. Il faut dépasser le bar chez Camille pour changer d'avis. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle de voir que la municipalité va détruire le bâtiment qui est déjà laissé en décrépitude et qui doit être dangereux pour les citoyens.
Oui, oui, c'est devenu des nics, comme on dit, à... non seulement à vol, mais à vandalisme, mais il ne reste plus grand-chose à vandaliser. Là, il reste avec les murs, quasiment, parce que je pense qu'à l'intérieur, ça l'a été.
Et ça peut être dangereux, l'effondrement.
Hein, c'est que le propriétaire... ça a déjà été vendu pour les taxes.
Mais
la municipalité l'a déjà mis en vente pour les taxes. C'est le nouveau propriétaire qui l'avait acquis, donc, pour une bouchée de pain, comme on dit. Pour pouvoir être en mesure de faire peut-être un projet. Il n'y a jamais eu de projet.
Okay.
Il n'y a jamais eu à repayer ses taxes non plus.
Oh.
Donc là, la municipalité le récupère pour faire les faits. Elle ne le remet pas en vente pour l'instant, donc a décidé de le conserver. Ça fait un trou financier, mais ça permet d'avoir un actif peut-être qui peut peut-être devenir dans le temps quelque chose. On ne peut pas en faire un aéroport, Marc.
Mais peut-être aussi un contrôle sur l'image de la municipalité.
Oui,
il y a cet
élément-là.
maintenant, passons, même si on a plein de bonnes nouvelles au niveau local, j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur une grande nouvelle qui est sortie cette semaine au niveau régional. Le rapport du BAP est sorti au sujet de GNL Québec. Et le BAP dit « plus de risques davantage ».
Oui, il calcule qu'effectivement, il semblerait-il, bien, je n'ai pas lu le rapport, là, mais ce qu'on en a dit, c'est la chose suivante. Au départ, il souligne que pour la région, ça deviendrait effectivement un investissement très intéressant et qui permettrait d'assurer une forme de développement. Par contre, ce qu'ils indiquent, c'est que le paquet d'inconvénients qui pourraient être liés à cela ferait en sorte que les bons coups par rapport aux mauvais coups font en sorte que ce n'est pas très, très un projet qui pourrait être, à tout le moins, socialement acceptable parce qu'il ne serait pas socialement acceptable. Le gouvernement a quand même répondu aussi à la chose suivante. Il y avait trois conditions pour que ce projet-là puisse obtenir l'aval aussi du gouvernement. Un, l'acceptabilité sociale. Deux, le fait qu'on puisse être en mesure d'avoir une façon de convertir ce qu'il y avait dans le projet, mais l'impact qu'il peut en avoir fait en sorte que tu ne peux pas avoir une amélioration par rapport à une transition énergétique. C'était le terme qui était utilisé. Puis un troisième aspect, là, de mémoire, je l'oublie. Ça fait en sorte que le gouvernement serait aux prises à se dire « Non, on ne peut pas accepter le projet tel qu'il est là. » Les gens de GNL disent « Écoutez, on va refaire certains devoirs pour pouvoir être en mesure d'améliorer la situation puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. » Il ne faut pas oublier une affaire hein, dans ce projet-là. Puis à toutes les fois où on en a parlé, il n'y a plus de financement là-dessus. L'entreprise, pas l'entreprise, le bailleur de fonds qui était au départ sur ça, s'est désisté. Donc, il n'y a plus de... et c'est quand même 9 à 10... 9 milliards, je pense, juste... Alors, tu sais, ça prend quand même un bon bailleur de fonds. Et je vois mal, avec le rapport qu'il a là et le tollé de protestation qu'il y a eu, je vois mal le gouvernement dire « Ah, ben là, on met un milliard là-dedans, là... »
Surtout lorsqu'une instance gouvernemental vient de donner la recommandation
contraire. Oui, paraît gouvernemental donne, effectivement, là, qui donne cet aval-là. Maintenant, tu sais, ils disent pas, on le fait pas, là. Faut pas oublier ça, là, dans le rapport du BAP. Ils disent pas, non, c'est un projet qu'il faut pas faire, là. C'est pas ça qu'ils disent. Maintenant, ce qu'ils soulignent, c'est que le gouvernement, avec ses trois conditions, si effectivement les trois conditions demeurent, ça représente, et puis que tu réussis à convaincre les gens que les trois conditions sont là, bien là, je vois... Mais ce que je vois mal, c'est le gouvernement quand même investir maintenant dans la réalisation du projet. Il va y avoir des formes d'investissement qui vont pouvoir se faire, tu sais, par l'utilisation de programmes actuels, ces choses-là. Mais je vois mal le gouvernement dire, écoutez, ouais, on met, je sais que vous n'avez pas de financement, là, on met un milliard dans l'affaire.
Sous le ça, profil là, d'un investissement, ça ne passera jamais au niveau social et politique.
Exactement. Donc, tu comprends, je veux dire, je sais bien qu'ils doivent aussi y penser, là, eux autres, là, et puis ils le mettront fort probablement.
Les conditions que le BAP ont sorties, c'est que présentement, le projet tel qu'il est présenté, au niveau de la construction, il serait très avantageux pour le territoire, mais seulement les 4 premières années. Pendant la création du projet. Ensuite, la majorité des profits et des retombées reviendraient plus dans l'Ouest canadien où c'est exporté.
C'est évident.
D'où c'est exporté. Et l'autre point, pour faire un retour, c'est l'aspect touristique, étant donné que ça changerait la baie, niveau visuel, mais aussi pour l'accès des croisières et autres accès. Donc, oui, il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect économique et il y a l'aspect économique au niveau touristique pour la préservation de l'effet visuel du fjord. Donc, l'ensemble que j'ai lu du rapport est très complet et ne dit pas non, mais dit « Vous avez beaucoup de choses à faire avant que ça soit acceptable socialement. » Et c'était la première condition qui est ressortie beaucoup du PAB sur les 46 recommandations qui ont été sorties, qui est « Assurez-vous d'avoir l'acceptabilité sociale. » Donc,
Mais il reste un élément, puis on en a discuté déjà, mais tu sais, le BAP, c'est un organisme qui fait des recommandations. Ce n'est pas un organisme décisionnel. OK? Alors, la décision revient effectivement au gouvernement sur l'ensemble, peu importe le projet qui passe au BAP. C'est évident que le gouvernement qui ne veut pas respecter ce que le BAP dit, ça peut avoir effectivement une incidence politique, électoraliste aussi, assez grande. Mais il faut vraiment oublier que c'est des organisations qui sont là pour faire des recommandations. Et la décision revient toujours à l'instance, au gouvernement, de prendre, de dire « oui, on va de l'avant quand même ou on ne va pas de l'avant quand même ». Maintenant, il reste que le fait que le BAP donne quand même, je pense, de bonnes pistes d'analyse pour que la décision soit prise avec la question de l'acceptabilité sociale, ça entre en ligne de compte. Il y a un élément aussi qui...
Bien, si je peux finir ce point-là, ce jeudi, le ministre Charrette a répondu au rapport du BAP que GNL devra faire ses devoirs avant que le Québec puisse dire oui.
Oui, c'est
ça. Donc, c'est la réponse, c'est une réponse très politique, qui veut dire tout et rien en même temps. Mais on comprend quand même un message à dire que c'est dans les mains de GNL et présentement, c'est pas accepté par le gouvernement.
C'est ça. Non, non. Actuellement, là, le gouvernement... En fait, le gouvernement ne prend pas de position. Il dit que les trois conditions que nous avons émises, selon ce que le BAP nous recommande, tu n'en aurais pas réalisé une. Alors, on n'irait pas de l'avant si ça reste comme ça.
C'est ça.
OK? Alors, bon, on en est là, là. Il y a un autre élément aussi qui commence à... Peu importe, quand tu parles d'un développement économique quelconque, il va y avoir un effet sur l'environnement. OK? Que ce soit quand tu exploites une forêt, OK? Tu as un impact sur l'environnement. Et de plus en plus, on utilise l'activité touristique pour nous faire dire que, écoutez, on n'aura plus de même touristes parce que vous allez changer quelque chose. Ça, là, ça commence à, effectivement à magasiner. Écoute, j'ai déjà travaillé dans le monde du tourisme. Mm-hmm. Je sais qu'est-ce qu'il y en est. C'est l'importance que ça peut avoir. Mais qu'on m'amène toujours cet argument-là pour faire valoir qu'un projet ne peut se réaliser. Car actuellement, là, on en est à vouloir enchaîner du monde autour des arbres dans le secteur de la Péribonka parce qu'on a accepté de faire en sorte qu'il puisse y avoir des coupes sélectives qui se fassent dans une forêt qui est aux prises avec l'épidémie de la tordeuse du bourgeon d'épinette et qui va faire en sorte que dans 3 ans, cette forêt-là va être à terre complètement. Là, au moins, on pourrait être... En tout cas, je veux dire, je veux pas me choquer quand j'amène ça, mais ça me choque un peu de voir que, oui, on amène cet argument-là du tourisme à tout bout de champ, alors que l'activité touristique n'est pas autant que ça. Écoute, dans mon coin où j'ai un chalet, là, sais-tu c'est qui fait du tourisme? C'est les propriétaires des chalets. Moi, je ne loue pas à quelqu'un d'autre, puis on y va nous-mêmes pour pouvoir... Je n'appelle pas ça du tourisme, moi, là. J'appelle ça, oui, avoir la chance que d'être en pleine forêt et de pouvoir avoir en plus un toit sur la tête quand j'y vais et non pas une tente. Mais, tu sais, le tourisme, là, on me l'amène à tout bout de champ en disant, écoute, ça, on va changer le profil visuel et ça va faire en sorte que les touristes ne viendront plus. Pas vrai, ça. Je suis désolé, c'est pas vrai, ça. Il n'y a rien de mieux que d'aménager quelque chose pour faire venir des touristes. Et la meilleure des preuves que je vais te dire, c'est que quand on fait en forêt, on fait des activités à un moment donné, là, je ne me souviens pas comment on appelle ça, mais que tu peux avoir
en randonnée?
Oui, des randonnées ou encore des...
En quoi? Dans le jamboree?
Oui, bon, tu sais, quelque chose comme ça. Et ça fait en sorte que, là, ce que tu prends, c'est que tu prends la forêt, tu aménages quelque chose, et là, tu fais venir des touristes. Quand tu avais la forêt tout seul, là, 3-4 arbres là, qui traînaient, il n'y a pas un chat qui me l'aide. Tu sais, moi, c'est pour ça, je trouve ça quand même de plus en plus agaçant. De voir, ah oui, tu sais, la profondeur touristique, elle va changer.
Bien, je suis d'accord avec toi au niveau que lorsqu'il y a une saine gestion de la forêt, une saine gestion, donc les coupes sélectives, les coupes des arbres malades, ou encore, il ne faut pas oublier que le bois est quand même un matériel très noble et c'est un des matériels les plus écologiques parce que c'est un piège à carbone. Vaut mieux avoir un arbre qu'on fait tomber, qu'on transforme en bois, qui nous fait des constructions, que de le laisser mourir et qui relâche en carbone. Donc, on laisse des plus jeunes. Ça, je comprends très bien. Mais pour revenir au sujet de GNL Québec, où il y a un aspect touristique, c'est que les bateaux de croisière ne pourront pas utiliser le fjord en pleine capacité, étant donné les dangers des gaziers, des bateaux de méthane.
Bien, moi, j'ai eu l'occasion d'écouter une... le directeur du port de... C'est l'année dernière qu'on avait fait ça, on avait fait un reportage là-dessus. Le directeur du port, justement, de Saguenay, qui parlait justement du projet de GNL et du trafic.
Oui.
Il n'était pas en même temps. Il s'organisait pour avoir des couloirs qui n'étaient pas en même temps. D'avoir le trafic gazier et le trafic des touristes, ça se faisait, ça se pratiquait. Et donc, ce danger-là, à ma connaissance, s'éliminait. Mais peut-être que le BAP a décidé que c'était pas vrai puis qu'il n'y en était pas autrement. Mais en tout cas, je veux pas dire ça pour défendre nécessairement le projet pour le projet, mais il reste que... Les bateaux croisières, tu sais, ils utilisent, eux autres aussi, là, le fjord. Mm-hmm. Et quand tu utilises le fjord pour pouvoir être en mesure de le Saguenay pour pouvoir venir jusqu'à la baie, ben oui, il faut que ça, ce genre d'activité-là, se poursuive, se maintienne. Mais, en tout cas, la question du transport, moi, ce qu'on me disait, maintenant, peut-être fort probablement, qu'il y a eu des changements par rapport à ce qu'on me disait.
Oui. Là-dessus. Bien, je trouve ça très intéressant. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est une émission d'opinion. Ça veut dire qu'on a des faits, c'est qu'on on donne notre avis, on donne notre point de vue sur la situation. Et c'est toujours pour ça que c'est intéressant d'écouter qu'en pensez-vous à votre horaire régulier. Donc, on va profiter de ce petit court moment de pause pour refaire le plein, puis on vous revient avec les nouvelles plus provinciales après la pause.
Électron libre, c'est quoi? C'est un trio de chroniqueurs, Francis Côté, Mélanie Saint-Germain et moi-même, Pierre Turcotte, qui vous informent et qui vous divertissent sur des sujets passionnants, toujours hétéroclites et parfois même étranges. Une source divertissante d'informations inutiles, de convivialité et de plaisir. Ne manquez pas, Électron libre!
Ça vient de qui, tous ces messages-là?
Hein?
Tu veux pas me le dire, hein? Tu me caches quelque chose?
Mais voyons, de quoi tu parles?
Hey! Prends-moi pas pour un épais.
Je le sais que tu parles dans mon dos à tes amis. Tu me fais passer pour un méchant. Mais c'est toi qui cherches l'attention.
Chérie. Hey! Là, tu vas m'arrêter ça tout de suite, là. Tu vas me le dire, c'est à qui tu parles, OK?
Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là.
La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez votre rendez-vous en ligne en vous rendant sur québec.ca/vaccin-COVID. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de bien vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
Je te laisse pas sortir d'ici sans savoir où tu vas.
Hein?
Bien de même, en plus.
Ben oui, non, je...
Hey, arrête de tout le temps me mentir en pleine face. Tu le sais que je peux pas te faire confiance.
T'essaies toujours de me provoquer.
Mon amour, je...
Hey! Ben là, tu vas enlever ton manteau pis tu vas rester ici. C'est pas vrai qu'on va se chicaner à cause de toi. Moi, je suis là, je suis frère avec toi.
Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là.
Écoute-moi, mec, c'est fini, ça.
Studio chez soi est une série de 12 épisodes présentant différents types d'entraînements pouvant être effectués dans le confort de votre salon. Les séances sont animées par des entraîneurs du Studio Fusion, coop de solidarité.
Bonjour et bon retour à Qu'en pensez-vous? Je suis encore agréablement accompagnée par mon homologue Jules Simard.
Salut!
Bon retour!
Oui.
Donc, étant donné qu'on a une grosse semaine d'actualité, est-ce que tu es prêt à plonger tout de suite dans un nouveau sujet?
Allons-y!
Que je sais qui est très important et que, malgré que des fois, toi et moi, nous n'avons pas toujours les mêmes points de vue, il y a quelque chose qui nous touche énormément et qu'on trouve qui n'est pas assez mis de l'avant. Nous vivons présentement notre 7e féminicide au Québec depuis 2021.
C'est ça, depuis le mois de janvier.
Oui.
J'ai de la misère. J'ai de la misère à voir la façon dont on couvre cet événement, ces événements-là. C'est pas un fait divers. Là, c'est plus un fait divers que de voir 7 femmes. Alors que, bon, habituellement, tu sais, je veux dire, quand on traite ça, habituellement, il y a 12 féminicides par année au Québec. Hey, c'est 12 de trop. La question, c'est
on
pas
est
de
au faire... On est au troisième mois de l'année.
C'est ça, oui, mais c'est pas... Tu comprends, c'est pas juste... Il y a un phénomène social important actuellement qui a peut-être été amplifié par la pandémie, mais ce phénomène social-là, c'est que des hommes tuent des femmes avec qui ils vivaient et avec qui ils ont vécu, dépendamment si ça a été une séparation ou pas. On appelle ça la violence faite aux femmes puis des hommes violents. On n'est pas capable, fort probablement, dans une société, d'enlever des comportements violents par des lois. Il reste que les lois actuelles qui sont faites, font en sorte que tu ne peux pas non plus impunément tuer quelqu'un et, entre autres, sur la question des agressions sexuelles, de t'enclairer avec peut-être un petit 3 ans derrière les barreaux, que tu vas passer une semaine et demie parce qu'il y a trop de monde dans la prison. On te fait rentrer puis on sort après. Ça, là, le problème, il est aussi là. C'est qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables et ces comportements-là ne sont peut-être pas suffisamment punis. Je te dis pas de castrer ces gars-là, puis je te dis pas de les mettre, de mettre la peine de mort à côté. C'est pas ça que je... Sauf qu'il va, il faudrait que la peine sociale soit beaucoup plus grande pour que nous puissions être en mesure d'avoir une... au moins de décourager quelqu'un qui, qui va le faire. Remarque que dans beaucoup de cas, dans ces féminicides-là, il y a aussi la personne qui se tue après. Celui-là qui l'a fait.
Ça ne veut pas dire qu'il le fait tout le temps, en plus.
Non, c'est ça. Écoute, je pense qu'on a véritablement un problème social. Je suis heureux de voir et de constater que depuis, en tout cas, depuis le début de la semaine, là, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des interpellations de plus en plus. Il faut qu'on arrête d'en parler puis qu'il y ait des actions. Ça, c'est sûr. Alors, c'est pas juste en disant « Ah, on va mettre plus d'argent pour que les intervenants puissent intervenir. »
On fait de la pub à la télévision.
C'est ça. Un, deux. Puis deux, le fait d'en parler, là. OK? Le fait de dire « Bon, il y a eu un autre féminicide hier, t'es rendu à 7. » Demain, là, il y en a 7. Sais-tu ce que tu peux faire aussi, toi, comme conséquence? C'est que tu encourages aussi quelqu'un à le faire. Tu sais, le fait d'en parler, il faut qu'on en parle. Il faut que ça soit dénoncé. Il faut que ça soit mis sur la place publique pour que ce comportement-là devienne, à un moment donné, et nocif tant pour la société que pour les individus, naturellement, qui y sont contraints. Je ne sais plus quoi penser là-dessus, honnêtement. Je pense que oui, si nous mettions une pénalité encore plus grande que ce qui existe par rapport aux lois, puis en plus, les lois, bon, ben, ils sont faites aussi pour protéger des droits. Hein? J'ai tout bon air de dire que sans que ce soit des féminicides, il y a eu quand même des gens qui s'en ont très bien éclairé dernièrement sur des agressions de type sexuel, semblerait-il. Je comprends. Tout va partir fort probablement d'une nouvelle éducation.
Bien, quand même, il ne faut pas oublier que les féminicides, l'action d'un féminicide, c'est l'action d'un homme qui pense avoir le contrôle sur une femme au point de lui enlever la vie. Mm. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pense que le bien-être de l'autre personne dépend de lui ou encore son bien-être passe avant sa victime. Donc, on parle vraiment, c'est pas un crime au troisième degré qui s'est pas prévu, là.
Non, non.
C'est assez important parce que le sixième, on se rappellera bien que c'est une jeune femme de 19 ans et sa mère qui se sont fait tuer par l'ex-conjoint. Donc, on a plein d'histoires d'horreur et la violence conjugale qui dure depuis très longtemps. Mais ça m'amène sur un sujet qui, selon moi, va bien t'intéresser. Mais est-ce que tu penses que le système judiciaire, le système juridique ou le système policier est bien formé ou est bien au fait de la réalité de la violence conjugale, de la manipulation?
Non, et je pense qu'il vient y avoir y a un rapport là, qui a été produit par des députés qui l'ont analysé, peu importe le parti là, okay, mm-hmm. qui vient d'être fait. Est-ce qu'on une des recommandations est peut-être à l'effet que nous mettions de l'avant, à tout le moins, un tribunal spécialement attitré?
Je sais qu'il y en a un qui a été démarré il y a 3 semaines.
Oui, bien, il faut que là, on puisse avoir, à tout le moins, une orientation de traitement de ces activités nocives-là. Il faut qu'on ait quelqu'un qui soit sensibilisé à le traiter. Ce n'est pas, et les policiers le disent tous aussi. Là, actuellement, on a mis de l'avant certains types d'intervenants sociaux mm-hmm. pour pouvoir intervenir dans des circonstances de même. Parce que le policier, il l'a pas, la formation pour intervenir là, là-dessus. Et il sait pas quoi faire. En plus, t'es pogné avec les droits des gens. Avec quand tu frappes à la porte de quelqu'un, écoutez, monsieur, là, vous avez de l'air à vouloir... Tu peux même pas dire ça quand tu frappes à la porte de la personne. Faut que tu dises, bon, nous avons reçu une plainte. La plainte, à l'origine de quoi? À l'origine peut-être... Tu sais, c'est là tout le phénomène d'intervention du corps policier dans l'activité. Et tout est là. Il faut que nous regardions de quelle façon on se doit d'intervenir dans des cas comme ça. Et comme on agit actuellement, on agit selon le système légal, criminel, tel qu'il existe. Et ce n'est pas la réponse. Regarde les conséquences. On regarde les conséquences actuellement. On en est à 7 féminicides. Je ne sais pas. Dire ça, là, c'est épouvantable.
Oui.
C'est épouvantable de dire ça. On est obligé de dire on est rendu à 7. Mais là, ça veut dire quoi, ça, on est rendu à 7? On va-tu être à 15? On va-tu être à 12? On va-tu... On peut pas revenir en bas. Ça, au moins, c'est là. Mais tu comprends, dire ça, là, c'est qu'on a un malaise dans notre société. Et le malaise dans cette société-là, c'est au niveau comportemental. Fort probablement que, oui, nous avons aussi des attitudes qui originent de ce que la société, on parle souvent de choses systémiques avec mon ami
Pierre.
Avec mon ami Pierre. Mais tu comprends, je veux dire, on a des comportements qui sont amplifiés par cet élément d'éducation que nous avons reçu. Et ça...
Qui est amplifié ou même qui passe sous le radar parce qu'on dit que tout le monde le fait.
Oui, bien, c'est ça, là, tu comprends, c'est ça que les gens se disent.
Dans le fond, ma question était beaucoup plus... Dans notre système au Québec, au niveau de la justice, on a trois. On a les législateurs, ceux qui créent les lois, on a les policiers qui les appliquent, et on a le système juridique qui les...
Qui est valide.
Qui
permet à chacun
qui
d'avoir son droit,
c'est ça,
qui les d'avoir, c'est de faire valoir les
Donc, c'est toujours équilibré. Moi, je crois qu'au niveau du système, il y a des gens quand même qui sortent, mais le système, à force de voir tout le monde, il fait ça, il fait ça, il fait ça, on va pas changer le gros bateau, ça fonctionne comme ça. Bien, les comportements où on n'a pas la formation de reconnaître les comportements manipulateurs avant que ça devienne violent ou problématique. On n'a pas les outils aussi pour intervenir légalement ou policièrement. On n'a pas les outils pour protéger de cette façon-là. Mais aussi, le problème est, selon moi, beaucoup plus large aussi, parce que la réalité des femmes au Québec, même si on est au Québec, la province, on est le territoire le plus féministe au monde. Donc, c'est le territoire où les femmes ont le plus de droits et de pouvoir dans le monde. On peut se taper sur l'épaule, là. On est la seule université où il y a une spécialité sur les études féministes. Donc, on va se taper sur l'épaule, mais ça ne veut pas dire que ça arrête, là.
Non.
Ça ne veut pas dire que ça arrête là. Mais est-ce qu'on reconnaît les comportements misogynes? Est-ce que le législateur, lorsqu'il fait une loi, se pose la question « qu'est-ce que ça donne pour une femme? »
Fort probablement pas. Et ça, là, pour pouvoir être en mesure de l'avoir, ça va nous prendre de plus en plus de femmes qui sont aussi à l'Assemblée nationale.
Mais on a déjà quand même beaucoup de femmes. On ne se le cachera pas, la CAQ est arrivée et a donné quand même un conseil des ministres équitable. Donc, mais est-ce que les femmes ont autant le même pouvoir politique? Parce qu'est-ce que c'est une question représentative? On ne s'oubliera pas que depuis que la CAQ est au pouvoir, à chaque fois qu'une femme perd son poste, c'est un homme qui est changé.
Ouais.
Donc, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle est moins compétente? Est-ce que parce qu'elle est plus sensible, on se dit que ce n'est pas sa place, alors que la sensibilité n'est pas un défaut, mais bien un trait, une qualité? Donc, les aspects féminins ne sont pas valorisés dans le comportement de nos politiciens. Ça, il faut se poser des questions en tant que population, mais aussi poser des questions à nos politiciens.
Oui.
Donc, il y a ça qui rentre là-dedans, mais ce n'est pas aussi parce que c'est des femmes qui sont au pouvoir que c'est des femmes qui ont été victimes elles-mêmes. Il ne faut pas oublier que la violence conjugale touche toutes les tranches, toutes les classes sociales.
Oui, oui, oui.
97 % des femmes au monde vont vivre au moins une agression sexuelle dans leur vie. 97 % dans le monde. OK, c'est... On peut même pas dire une femme sur cinq!
Non.
Non!
C'est 100 %, résumé.
Non, non, c'est t'en sors personne, t'en as 97 qui vont avoir des attouchements sexuels ou qu'un homme ou une personne va avoir un comportement sexuel sans son accord. Donc ça, c'est quand même de l'abus. Puis pour que ça se rende à 97 %, c'est pas mal banalisé. On se le cachera pas.
Oui, comme actuellement, moi, je trouve qu'on banalise, pardon.
Parce que le féminicide, c'est l'ultime agression.
Oui, oui.
C'est l'ultime perte de liberté pour la femme.
Ben oui.
C'est l'ultime. Elle ne peut plus. Elle devient la victime de. Faut pas oublier ça aussi. Ce n'est pas la mort de madame, c'est la victime de monsieur.
Je pense qu'on a effectivement plus que juste un débat de société à faire là-dessus. On a des changements d'attitude. On a une éducation à redonner sur des comportements. Je te dis pas que...
Ça pourra pas se faire du jour au lendemain.
Je dis pas que tous les hommes sont les mêmes. Là. Sauf que, oui, il y aura, qu'on le veuille ou non, malheureusement, toujours du comportement qui n'est pas acceptable et qui va être dans l'illégalité, quelle qu'il soit. Ça fait partie aussi quasiment de la nature humaine. Mais la nature humaine, lorsqu'elle est en société, elle se doit de respecter certains types de règles. Et ces règles-là, ils sont à mettre de l'avant et à être amplifiés. Et quand on les respecte pas, il faudrait peut-être que nous ayons aussi les pénalités requises.
Mais est-ce que cette règle-là est reconnue au niveau social aussi? Ça, c'est autre chose. Tu me dis une phrase qui me fait beaucoup réagir. Ce n'est pas tous les hommes. Mais une femme, par exemple, qui se promène dans la rue tard le soir, si elle se fait suivre, est-ce qu'elle sait si c'est un bon ou un mauvais gars?
Non.
Puis après, on dit, ah ben là, calme tes nerfs, ils sont pas tous comme ça.
Oui, mais on a... Oui, bien, c'est...
Je pose la question, je donne cet exemple-là en disant les femmes, il y a des femmes, beaucoup de plus en plus de femmes qui le disent, et les femmes ne sont pas toujours victimes d'hommes, peuvent être victimes d'autres femmes aussi.
Oui.
C'est vraiment... toute personne peut être victime.
Bien, c'est quand même... L'agression, on peut l'avoir aussi.
Chez les hommes aussi.
Les hommes peuvent l'avoir aussi.
C'est ça. Mais parlons de la responsabilité d'homme vers un autre homme.
Oui.
Qu'est-ce qui est possible de faire selon toi, en tant qu'ami, en tant que collègue de travail, en tant que... Qu'est-ce qu'une personne qui est interpellée par l'émission d'aujourd'hui ou qui commence à trouver le sujet sensible, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme changement dans son comportement à lui qui pourrait faire la différence pour les femmes de son entourage?
Il faut que tu es toi-même. On a un comportement qui est... basé sur tout ce que l'on a vécu et entendu, puis qu'on s'est fait dire.
Toi, tu proposerais de se regarder fonctionner avec sa conjointe,
oui,
et avec les femmes. Donc,
bien,
ça serait déjà un premier rôle. La première chose, ça serait de se poser la question, est-ce que, sans le savoir, j'ai un comportement violent face aux femmes?
Ou encore, je peux avoir des comportements même de type discriminatoire.
Ben oui, ou des micro-agressions aussi.
C'est ça, je veux dire...
Je tiens à dire quelque chose, on a une excellente ressource au niveau local qui est une particularité de notre région, c'est le Centre Optimum. Donc, si vous voulez avoir des pistes de réflexion professionnelles, on vous encourage à les contacter. Mais c'est la première chose. Mais j'apprécie beaucoup comment tu apportes le point, parce qu'un père, c'est un ami, c'est un conjoint, c'est un... Donc, on voit que la première question, c'est de se poser des questions nous-mêmes sur nos comportements, quels sont l'impact qu'on a envers notre conjoint-conjointe, mais aussi que je sais que tu as des enfants, que tu as même des petits-enfants, et tu es conscient que tu es un modèle de qu'est-ce qui se vit.
Oui, exact. Et puis, mais tu sais, au départ, moi, j'ai été conscient, je n'ai pas eu un milieu violent où j'ai été... où on a eu... où j'ai passé toute mon enfance, ces choses-là. Et que la violence, pour moi, ce n'est pas quelque chose où je vais y aller naturellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de comportement violent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir... C'est comme là, quand je me choque un peu, là, ça a l'air d'être violent. Okay? Mais c'est aussi une façon de s'exprimer qui fait en sorte que, oui, tu peux avoir une attitude aussi qui peut être perçue comme étant de la violence.
La colère, la violence en elle-même n'est pas ça exprime une frustration, déjà, une colère. Et c'est l'émotion
déjà
est tout à fait valide. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être frustré. Mais utiliser la violence, de que ce soit vers un objet, verbal, physique ou autre, c'est ça. Il faut faire la différence entre l'émotion qu'on veut exprimer puis la violence.
Et le geste.
Et le geste. L'action. Donc, il y a d'autres façons d'exprimer notre colère, notre frustration. Puis en plus, présentement, dans la pandémie, beaucoup d'hommes se sentent isolés. Donc, ils n'ont pas leur réseau d'amis ou encore, il y a certains milieux où encore c'est encore difficile d'accepter l'idée d'aller prendre soin de sa santé mentale. Comme si c'était au niveau de leur éducation, parce que les changements sont en train de se faire lentement, mais sûrement, qui est de mieux percevoir l'idée d'aller chercher de l'aide en santé mentale.
Oui. Mais ça,
On est encore loin, on ne se le cachera pas. Si tu me permets de faire un mot sur les féminicides pour donner mon avis rapidement, moi, ça m'écœure. Ça me purge. J'utilise le terme classique, j'utilise les termes les plus polis. Je dirais plein de mots d'église hors contexte présentement. Parce que beaucoup de commentateurs, au cours des premiers et au cours des dernières années, disaient « c'est à elle de s'en aller ». Mettaient toujours la responsabilité sur la victime. Mais si on vient d'un milieu... Parlons, toi, en tant que père, si tu as des filles ou des garçons, je ne mettrai pas ta vie privée sur place. Mais si nos parents, c'est nos parents qui nous montrent qu'est-ce qu'on accepte dans notre couple. C'est nos parents qui nous représentent ce qu'on doit tolérer et ce qu'on ne doit pas tolérer. En tant que mère, dire qu'on ne tolère pas un comportement violent de la part de son conjoint, même si on l'aime, même si on comprend la situation, mais dire qu'on ne tolère pas un comportement, c'est sain. Ce n'est pas dire qu'on n'aime plus l'autre, c'est dire « je n'accepte pas ce comportement », c'est se respecter. Donc, si vous êtes rendu à bout ou que vous sentez que c'est seulement l'acte physique ou l'acte violent qui peut vous soulager, posez-vous des questions, appelez. Il y a des numéros de téléphone qui sont disponibles, 100% anonymes qui vont… Puis quand vous raccrochez, vous avez une piste de solution. Ce n'est pas juste « vous êtes vidé ». Vous êtes vidé avec un professionnel, vous avez des avis, puis après, vous avez des pistes de solutions pour vous aider à vous en sortir. Puis c'est anonyme, là. La seule personne qui va être au courant, c'est la personne qui va être dans la même pièce que vous. Donc, si vous ne voulez pas qu'il soit au courant, mettez-vous juste pas dans une pièce avec quelqu'un d'autre, là. Je suis épuisée mentalement de voir à quel point on banalise les comportements violents de certains conjoints en disant « on va se mettre un compte conjoint, puis c'est monsieur qui décide qu'est-ce qu'il y a au niveau financier. » Ou « non, tu vas rester à la maison, puis moi, je vais aller à... C'est pas un choix commun, là. La dame est obligée. J'ai même vu, dans certains cas, des hommes qui choisissaient au restaurant à la place de leur conjointe pour la Saint-Valentin. Donc là, on parle plein de gestes banals, mais qui font toute une différence. En tant qu'allié, un allié, c'est une personne qui laisse la parole aux victimes ou aux personnes qui veulent en parler. Si vous voyez un comportement et que vous vous doutez que la personne n'est pas capable de parler, souvent les policiers n'ont pas le droit, s'ils n'ont pas une confirmation verbale, ils ne peuvent pas aller plus loin.
Non.
Ils ne peuvent pas aller plus loin. La législation ne leur permet pas de le faire non plus. Mais si vous, en tant qu'ami, en tant que personne, vous vous inquiétez. Mêlez-vous de leurs affaires. Si vous vous inquiétez, là, on se dit souvent « mêlez-vous de vos affaires ». Non. Mêlez-vous de leurs affaires. Soyez simplement, là, je vous donne un exemple, simplement une femme qui est victime de violences conjugales, qui a un bleu dans le visage. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, juste un accident. Et vous voyez que monsieur est stressé. On ne peut pas appeler la police, parce que c'est la victime qui doit être prête à dénoncer. Mais d'apporter la victime dans un endroit sécuritaire, de dire « Hey, on va-tu prendre un café, juste toi puis moi, entre amis? » Aller parler des services qui sont disponibles. Donner les solutions, les liens, parce qu'on y en a des ressources pour les victimes. Le moment le plus dangereux lors de la violence conjugale pour la femme, c'est la séparation. Mm-hmm. Alors, soyez là pour les victimes, mais j'aime pas le terme victime. J'aime pas le terme victime parce que pour moi, une victime, c'est quelqu'un qui a absolument besoin de quelqu'un d'autre pour s'en sortir. Des fois, il y a juste besoin qu'on ouvre la porte. Puis savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui est là à l'aider si elle le veut.
Là, y regarder, certainement, c'est une question comportementale. Il y a une problématique sociale qui en découle et il faut que nous agissions.
C'est sain de mettre ses barrières et c'est sain de les écouter, de respecter les barrières des autres. Si on dit que ça arrête, lorsqu'une femme quitte un homme, elle l'a quitté mentalement depuis longtemps avant de le quitter physiquement. Essaye pas de la revoir. Essaye pas. Ferme tes blessures, pose-toi des questions, puis passe à autre chose. J'envoie toutes mes prières personnellement, tous les messages à l'univers, peu importe la religion, mais j'envoie tout l'amour nécessaire aux familles des victimes. Et j'envoie aussi aux hommes et aux femmes qui vivent cette rage-là à l'intérieur d'eux, j'envoie leur message d'espoir de dire, avant de briser votre vie, mais surtout de priver la personne que vous semblez aimer de la seule liberté qu'elle a, qui est de vivre, allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide. J'ai passé par-dessus la rage, j'ai passé par-dessus les pleurs. Je suis rendue à la... pas au regret, mais... Là, vous avez une responsabilité. On n'est pas dans votre vie de couple, on n'est pas dans votre entourage. Mais on vous voit aller. Puis prenez soin de vous en apprenant à bien gérer vos émotions, en allant chercher de l'aide, afin que tout le monde puisse avancer et non mourir. Mourir parce que vous n'avez pas appris à exprimer vos émotions d'une façon sans détruire quelqu'un d'autre. Excuse-moi, c'est un sujet, j'étais très contente qu'avec moi, tu veuilles parler de ce sujet-là, parce que je pense que... c'est quand même au niveau journalistique quelque chose, c'est un défi quand même à faire paraître, parce qu'on ne veut pas trop en parler pour ne pas donner des idées, qui est quand même, on ne se le cachera pas.
Un phénomène qui est là.
Il y a un phénomène qui est là, mais qui est faux aussi. C'est pas plus qu'on en parle, plus il y en a. Mais il ne faut pas trop en parler non plus pour pas... faut pas trop en parler non plus pour pas donner un piédestal au meurtrier. Mais toi, en tant qu'ancien journaliste, qu'est-ce que tu aurais écrit comme titre pour ça?
J'y ai pensé parce que j'ai pu voir un reportage à un moment donné où est-ce qu'il y avait effectivement eu un événement qui s'était passé. La journaliste, c'était une journaliste qui avait écrit tel titre. En fait, dans la mesure où c'est pas le chef de pupitre qui fait,
qui le, fait titre, le titre, ouais. Là, mais,
et qui disait que si elle avait effectivement eu à traiter ça aujourd'hui, elle aurait changé et le titre. Et la façon de traiter l'événement. Parce que quand tu traites l'événement, tu le traites avec les faits que tu vois et que qu'on te rapporte. Parce que souvent de fois, tu es...
Un journaliste, ce n'est pas une opinion, c'est des faits.
C'est ça. Donc, tu traites les faits et un acte, une claque sur la gueule, ça s'appelle une claque sur la gueule. Tu sais, je veux dire, peut-être que la claque était beaucoup plus... Hier soir, il y avait justement des reportages sur les conséquences neurologiques qui peuvent y avoir à des femmes qui ont été violentées, ce qu'on appelle des commotions cérébrales. Les commotions cérébrales chez les femmes, tu en as très exactement 200 000 fois de plus que ce que tu as dans la ligne nationale quand les gars jouent au hockey.
Oui.
OK? Alors, ça, là, ces phénomènes-là, donc, tu le traites, toi, avec les faits. Et tu ne peux... Tu sais, je peux pas... Aujourd'hui, on le qualifie de féminicide. Dans le temps, on le traitait comme étant un acte de violence à l'endroit d'une femme. Aujourd'hui, le mot féminicide veut dire beaucoup plus. Juste le changement au niveau du vocabulaire nous amène à des images qui sont, et un féminicide, c'est une femme qui est victime d'un meurtre.
C'est pas un drame conjugal.
C'est pas exactement, tu comprends? Et je pense qu'aujourd'hui, en qualifiant le geste et en lui donnant une connotation qui est plus réelle, même s'il est qualifié. Tu sais, je disais toujours à quelqu'un qui faisait du journalisme, qui voulait faire du journalisme, enlève dans ton texte tous les qualificatifs. Et tu vas avoir un texte journalistique. OK? Maintenant, dire un féminicide, ce n'est pas juste dire un qualificatif, c'est d'identifier exactement un fait. Et le fait, c'est la mort d'une femme.
Et je suis très contente qu'on ait passé cette deuxième partie de l'émission à parler d'un sujet qui touche tout le monde à travers nos milieux. Est-ce que tu aurais un mot pour nos téléspectateurs qu'on puisse partager afin de se revoir la semaine prochaine?
On va certainement devoir reparler encore une fois, non pas des féminicides, mais fort probablement que nous aurons encore un peu la conséquence sur la période de vaccination. On sait que dans la région, on a demandé d'avoir plus de vaccins parce qu'on s'est ramassé avec une augmentation de cas, entre autres dans la MRC
Domaine-du-Roi.
Juste pour dire que fort probablement que ce sujet-là va être encore d'actualité. Je ne sais pas si nous allons devoir en rediscuter, mais il est encore d'actualité. Je vais dire, comme on disait la semaine dernière avec Richard, la COVID là, est encore là.
Oui. Donc, chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir été à l'antenne. Nous sommes très heureux, Jules et moi, de vous avoir reçus, d'avoir partagé notre opinion. N'hésitez pas à intervenir sur nos réseaux sociaux, ça va nous faire plaisir. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine avec des sujets tout aussi intéressants d'actualité et avoir des opinions des gens d'ici sur l'actualité d'ici.